Salutations, mon nom est Sylvain Aubé, j'anime pour vous l'archivologiste, dans lequel j'explore certains angles morts du métier d'archiviste ainsi que du monde des archives. Je suis aujourd'hui avec Jessica Hébert ainsi que Nicolas Martel, qui travaillent tous deux à la Cinémathèque québécoise. On a parlé de la mission de la Cinémathèque, de ses collections, la particularité de préserver des films plutôt que des documents écrits, du nouveau rôle qui est appelé à jouer le numérique dans la préservation du cinéma, du dépôt légal ainsi que de la cinéphilie chez la plus jeune génération. On a aussi quelques anecdotes sur des choses que nous ne savions pas de la Cinémathèque québécoise, ce bâtiment du quartier latin qui nous est pourtant si familier. Un mot à propos de l'archivologiste. Je sais qu'on parle normalement d'archiviste, d'archivistique, plus rarement d'archivologie, mais ne trouvant pas ce mot dans le moteur de recherche ni dans les dictionnaires, j'ai souhaité l'utiliser pour définir une pratique non conventionnelle de l'archive. Bref, l'archivologiste, c'est le podcast sur les angles morts de l'archive. Et l'angle mort ici, c'est le cinéma. On écoute Jessica Hébert et Nicolas Martel, une entrevue réalisée en décembre 2025.
Jessica Hébert. Donc, mon rôle à la Cinémathèque, je suis chef du service de la documentation des collections. Puis, je travaille ici depuis 2023.
Nicolas Martel, je suis chef de service à la préservation numérique. Donc, je m'occupe de tout ce qui est infrastructure, catalogage et numérisation, entre autres choses au niveau du numérique.
Et une full disclaimer, donc on travaille ensemble. Donc je travaille actuellement à la Cinémathèque. Donc on est entre collègues et merci de me recevoir. Moi, je vais avec les questions, peut-être des questions plus générales pour les gens qui ne connaissent pas le mandat de la Cinémathèque, clairement. Ou qui ont juste une vague idée que, il y a une Cinémathèque qui existe, mais on ne sait pas exactement ce qu'elle fait. Donc peut-être Jessica, peut-être mettre en contexte, puis ton équipe aussi, qu'est-ce qu'elle fait.
Oui, bien sûr. Mais en gros, on peut définir la Cinémathèque, c'est un musée du cinéma. Donc, c'est un organisme culturel voué à la sauvegarde et conservation du patrimoine cinématographique et aussi la valorisation. Donc, il y a plusieurs axes d'activité, mais on a, entre autres, les collections qui comprennent les archives audiovisuel, donc du cinéma. La majorité des archives, en fait, la collection de conservation, c'est sur les films québécois et l'animation. L'animation québécois et internationale. Mais on a aussi une collection de films internationaux aussi, qui sont principalement pour la diffusion. On a également des collections de ce qu'on appelle des afférentes au cinéma, donc tout ce qui est lié au cinéma, mais qui n'est pas une archive audiovisuelle, les scénarios, les objets, les documents iconographiques, documents papier, etc. Et aussi, on a la médiathèque, donc c'est vraiment une bibliothèque de référence sur le cinéma. Donc, il y a vraiment ce mandat de recherche, valorisation et sauvegarde de la patrimoine cinématographique. Puis aussi, la Cinémathèque en tant qu'institution, bien sûr, on projette des films aussi, des films souvent qui proviennent de nos collections. Donc, il y a vraiment une volonté de mettre en valeur les collections à travers les activités de médiation, aussi la diffusion, mais aussi des expositions.
C'est une institution d'une certaine taille, ton équipe
oui. S'est fait. Oui, donc moi je dirige l'équipe de la documentation. Donc c'est une équipe qui s'occupe de le traitement d'archives de la Cinémathèque, donc les archives afférentes au cinéma et aussi les archives audiovisuelles. Donc on s'occupe de dès la réception d'une acquisition, on planifie le traitement. C'est une équipe qui va effectuer le traitement, mais entre autres, on a souvent toutes les questions de catalogage. Donc aussi, moi, je m'occupe de vraiment toutes les questions de catalogage, de documentation et traitement. C'est quelque chose qui tombe dans mon équipe et aussi la gestion de la base de données. Donc, c'est vraiment l'équipe qui fait tout le traitement. Donc, on parle de description archivistique. Pour les gens qui sont peut-être moins familiers, quand on parle de catalogage, on parle de comment on va organiser et décrire les objets que nous avons pour qu'ils soient trouvables pour les chercheurs dans une base de données. Puis, chaque type de document doit suivre des normes de description archivistique et muséale pour qu'il y ait une cohérence dans nos données et pour que les choses soient découvrables dans notre base de données. Donc, on travaille, c'est ça. Donc, dans mon équipe, il y a six personnes. Donc, entre autres, certaines qui travaillent exclusivement avec des archives afférentes, puis d'autres qui travaillent dans notre centre de conservation Boucherville sur les archives audiovisuelles.
Merveilleux. Ouais. J'avais quelques questions après pour Nicole. Ouais. Je reste avec toi, Jessica. Ouais. Par rapport aux archives traditionnelles, lorsqu'on parle d'archives, on voit souvent les archives papier comme étant standard. Donc, on voit toutes ces questions-là. On voit souvent les archives fil ou son. Ouais. Mais qu'est-ce qui est spécial dans les archives fil? Qu'est-ce qui est différent par rapport à un centre d'archives papier?
Tout est plus compliqué. En fait, c'est vraiment plus complexe. Moi, j'ai eu vraiment longtemps dans le milieu aussi de documentation d'art visuel où c'était vraiment, je travaillais exclusivement avec des archives numériques, mais aussi des archives papier principalement ou iconographiques. Et je réalise que les archives audiovisuelles, c'est tout un autre milieu pour plusieurs raisons. Mais peut-être avant de faire ça, peut-être juste pour un peu reculer, poursuivre, je pense qu'une des choses aussi que le grand public ne réalise pas souvent, c'est l'ouvrage qui est nécessaire, le travail humain qui doit être fait pour maintenir un archive, pour le décrire, pour la conserver. C'est un travail colossal, mais vraiment qui est souvent sous-estimé. On reçoit des choses dans toutes sortes de différents niveaux d'organisation, de propriété, puis on doit vraiment être sûr de tout classer et de trier et prendre soin de ces choses-là. Puis avec les archives audiovisuelles, où est-ce que je peux commencer? Premièrement, il y a l'enjeu de conservation. Ça va être conservé. Nous, on conserve plusieurs, tous les différents types de formats. Donc, on a pellicule, 35, 16 mm, Super 8, 8 mm. On a aussi une collection de vidéos et aussi des archives audiovisuelles numériques. Donc, il y a toute la question de la conservation. Les films doivent être conservés à froid. Donc, on a des réserves dans notre centre de conservation à Boucherville, qui sont des réserves froides. Donc ça, c'est juste toute l'énergie et les ressources nécessaires pour contrôler les réserves. Il y a les enjeux d'espace. Et aussi...
Les bobines des montagnes.
Oui, c'est ça. Puis les films, en fait, tu reçois une bobine, mais tu ne sais pas nécessairement si elle est en bon état. Tu ne sais pas nécessairement si c'est le film qui est écrit sur la carte, c'est vraiment le bon film. Donc il y a un travail d'inspection qui doit être fait pour faire un constat d'état. Avec les films aussi, il y a des enjeux très particuliers avec le catalogage parce qu'on peut avoir toutes sortes de différentes versions. Tu as la version là, on veut sans courte, version sous-titrée, toutes sortes de versions internationales. Donc, pour ça, pour pouvoir décrire ça aussi dans la base de données, c'est complexe. C'est encore plus complexe pour le numérique, mais Nicolas pourrait en témoigner. C'est vraiment, c'est encore plus complexe quand on tombe dans le numérique parce que les options explosent.
Donc, il y a plusieurs versions pour le même.
Oui, exactement. Puis, il y a aussi ensuite l'enjeu de la conservation pour les formats obsolètes, donc la vidéo. Si on veut le conserver, on a beaucoup de formats vidéo où les machines pour les jouer n'existent presque plus ou sont très difficiles à trouver. On a des gros projets de numérisation, encore Nicolas pourrait parler davantage. Donc, souvent, la seule façon de vraiment avoir connaissance de ces contenus-là, c'est de pouvoir les numériser. Donc, toute la migration des contenus, mais c'est extrêmement complexe.
Effectivement. En tant qu'une archive de films, donc la cinématique n'est pas seule, donc il y a un contexte international. Donc,
oui.
Est-ce qu'il y a d'autres modèles duquel on s'inspire pour classer ces...
Oui, c'est ça. C'est ça, on est membre de la FIAF, donc la Fédération internationale des archives du film, qui est un réseau international d'archives d'images en mouvement, donc des cinémathèques à travers le monde. Et j'oublie à quelle année, c'est peut-être en 2015, certainement, mais la FIAF a publié les règles de catalogage pour les images en mouvement. Donc, nous, on essaie de... Pendant longtemps, il y avait certains standards internationaux, mais pas une cohérence vraiment internationale des règles de description qui étaient utilisées de façon vraiment uniforme. Donc, c'est quelque chose que nous, on essaie d'adopter, de vraiment adhérer à ces modèles-là. C'est pas... chaque région et chaque cinémathèque va avoir leur spécificité, donc c'est vraiment un cadre général, un cadre intellectuel de comment structurer la description d'un film. Puis il y a des différents, c'est très complexe, je pourrais parler juste de ça pendant longtemps. C'est ça, donc ça c'est quelque chose qui aide beaucoup à, je pense, adhérer à des normes pour pouvoir justement parler d'un langage commun avec d'autres cinémathèques. Mais à travers le réseau de la FIAF, on a beaucoup de contacts avec d'autres cinémathèques, avec le British Film Institute, avec le Centre national d'image en France, donc ou avec différentes institutions. Donc ça nous met dans un réseau. Et justement, on a accueilli le congrès de la FIAF ici à la Cinémathèque cette année. Donc c'était vraiment une merveilleuse opportunité de pouvoir réseauter avec d'autres institutions et parler des enjeux communs. En fait.
Excellent. Puis donc, je passe la balle à Nicolas. Puis, pour nous, donc, lorsqu'on parle de Cinémathèque, on pense au film, mais on pense moins souvent à toute l'univers qui est derrière. Bon, je fais la transition. Donc, d'une part, qu'est-ce que ça implique à la Cinémathèque de traiter des films numériques? Mm-hmm. Puis peut-être est-ce que c'est le même enjeu? On parlait de la FIAF, est-ce que c'est le même règle?
L'univers des archives numériques, je trouve que c'est un monde, en fait c'est une discipline qui est parallèle aux archives classiques, mais qui a ses spécificités propres, puis qui demande donc des considérations qui sont légèrement différentes. Par exemple, quand on parle d'archives physiques, on est souvent dans des entrepôts, du volume, comment gérer l'espace physique qu'une archive prend. Dans le numérique, les supports ont tendance à augmenter de capacité à peu près à tous les 2-3 ans. Donc, on est dans une situation où est-ce que l'enjeu d'occupation d'espace physique est inversé, où est-ce qu'on sait dans le futur que les supports de stockage augmentent en capacité et on peut stocker plus de données. Par contre, en fait, il y a toute une dimension de désuétude des supports qui est beaucoup plus importante parce que, bon, à peu près tout le monde peut le savoir à la maison, un disque dur, ça peut lâcher. Les recommandations sont autour de entre 7 et 10 ans, on devrait donc migrer son matériel d'un disque dur à un autre. Nous, à la Cinémathèque, on utilise un support de stockage qu'on appelle le LTO pour Linear Tape Open. C'est des cartouches de ruban magnétique, un peu similaires aux cassettes VHS qu'on connaît, sauf que dans le cas du LTO, c'est du ruban qui enregistre des données et non pas l'information analogique sur le support magnétique. Ces cartouches-là nous permettent d'avoir accès à un stockage beaucoup plus élevé pour beaucoup moins cher. Donc, ça devient un support qui est central à la conservation de nos éléments numériques. Parce qu'il faut savoir que quand on parle d'images en mouvement, il y a tout un côté technologique pour s'assurer qu'à la maison, par exemple, quand on écoute Netflix ou à la télé, on soit capable d'avoir un signal sans interruption de bonne qualité. Donc, il y a toujours un grand enjeu de compromis entre la qualité de l'image et la taille des fichiers qu'on conserve. Et nous, par souci de préserver les meilleures versions possibles, on conserve donc des versions extrêmement volumineuses. Si on prend, par exemple, ce qu'on appelle un DCDM, c'est un Digital Cinema Distribution Master, qui est le fichier final complet du film quand il sort d'une chaîne de montage numérique. Ce fichier-là, pour un film d'une heure et demie, peut faire entre 1 teraoctet et demi et 2 teraoctets et demi de taille considérable. Donc. Ce qui veut dire que quand les gens ont, par exemple, un H.264, un petit fichier qui pèse à peu près 1 ou 2 gigas sur un ordinateur, c'est loin d'être un fichier de conservation acceptable pour une préservation à long terme. Donc, il y a une dégradation qui est peut-être pas perceptible dans certains cas à l'œil nu, mais en termes de... Si on fait une projection dans une salle de cinéma, ça sera pas du tout adéquat.
En fait, ironiquement, peut-être il y a certaines bobines, certains films qui sont numérisés et qui vont devoir aussi être rafraîchis aux 5 ans, 5 ans, 10 ans, comme ça. Donc, je ne sais pas si c'est un enjeu.
C'est sûr qu'il y a eu une explosion assez spectaculaire des différents standards existants autour du cinéma. Là. C'est un médium qui est beaucoup lié aux avancées technologiques. Il y a une époque durant les années 90 où est-ce qu'à chaque 2 ans, on changeait complètement de standard parce qu'il y avait des avancées très, très rapides. On peut dire que depuis donc, la décennie 2010, il y a eu une stabilisation. Donc, c'est un petit peu plus... On peut planifier un peu plus loin nos migrations en se disant les standards de conservation qu'on a maintenant, dans 5-10 ans, vont encore être adéquats. Il y a probablement des choses qui se trament en laboratoire qui vont émerger dans les prochaines années, mais pour l'instant, ce qu'on a est stable et pas mal adéquat pour la plupart des situations de projection.
Puis par rapport à ce que Jessica mentionnait ou ce que tu as dit, est-ce que c'est couvert par un guide de la FIAF?
Je crois que plusieurs institutions autour de la planète sont en train de développer leur façon de décrire ces fichiers-là. C'est sûr qu'il y a des enjeux justement par rapport à la nature même des éléments. Donc, il y a une description technique beaucoup plus précise qu'on peut faire sur des fichiers numériques. Mais il y a aussi des possibilités techniques qui sont fascinantes, du genre, c'est possible d'avoir plusieurs langues dans un même fichier. D'un point de vue conservation, c'est intéressant parce qu'on peut rassembler plusieurs versions à même le même fichier, mais ce que ça peut poser comme problème, c'est au niveau de la description, comment qu'on décrit clairement ce fichier contient plusieurs versions en plusieurs langues.
Ouais. OK, ouais. Fait qu'il y a des enjeux très, très similaires, mais c'est un peu couvert.
Intervenir. En fait, c'est un exemple où le modèle qui a été fait pour l'analogique ne fonctionne pas du tout pour le numérique. Parce que dans le catalogage de la FIAF, en fait, le manuel qui a été sorti du catalogage de la FIAF, c'est vraiment fait pour l'analogique. Ils sont en train de faire une deuxième version qui va incorporer plus de numérique. Mais traditionnellement, dans la plupart des cas, ça varie de différentes institutions. Une version dans différentes langues, parce que souvent, si c'est de la pellicule, mais les sous-titres sont vraiment sur la pellicule, ça va être considéré comme une variante. Donc, c'est comme une autre version du film. Ça, c'est dans une hiérarchie selon les règles de catalogage. Mais pour le numérique, mais tu peux avoir le même film, mais tu peux avoir 10 versions différentes. Donc, tu ne peux pas créer toutes ces variantes-là. Puis, en fait, tu as l'option de les mettre ou non. Ils ne sont pas vraiment propres au fichier, ils sont optionnels. Donc, nous, on a dû vraiment faire un système complètement différent parce que les besoins de description et la réalité numérique est complètement différente que la réalité analogique.
Dans le fond, il y a des œuvres où on pense à un film. Ouais. Un film est une œuvre, mais il y a vraiment plusieurs variantes disponibles.
Exactement. Oui, c'est ça.
Des systèmes dans cette.
Il y a aussi des casse-têtes au niveau du traitement. Par exemple, si j'ai un film qui est en espagnol et que je possède des fichiers de sous-titres en anglais ou en français, il faut tout d'abord, si on veut savoir si faut savoir si les deux sont compatibles. Donc, est-ce que la version de sous-titrage de fichier de sous-titres que je possède est conforme à la version vidéo du fichier du film? Donc, ça se peut qu'il y ait des montages différents, ça se peut qu'il y ait des petites modifications qui font en sorte que le fichier est désynchronisé ou fonctionne plus ou moins bien. Et dans certains besoins de projection, il faudrait peut-être même générer un nouveau fichier à partir de ces deux fichiers-là si on sait qu'ils fonctionnent bien. Parce que dans certains cinémas, on dit « mais moi, j'ai besoin d'une version où est-ce que les sous-titres sont brûlés à l'écran. » Donc, il va falloir générer cette version-là spécifiquement pour cette condition-là de projection.
Mais qui peut donner son fonds d'archives à la Cinémathèque? Qu'est-ce que vocation à être gardé? Qu'est-ce que vocation à être élagué, entre guillemets, jeté?
Oui, ben en fait, selon la politique, on a une politique d'acquisition, en fait. C'est on a souvent des dons de fonds d'archives qui proviennent soit des producteurs de cinéma ou des cinéastes qui peuvent donner leurs copies de leurs films ou de leurs archives, donc les documents liés à leur production cinématographique, donc les scénarios, les photos, les documents de production. Les documents de production pour qui témoignent sur la production cinématographique à part. Mais on n'a pas de... Il faut que ce soit comme une pratique professionnelle. Donc, on n'a pas de film de famille. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est dans notre mandat. Puis, c'est vraiment... on priorise le cinéma québécois. Donc, on a sortant notre mandat d'acquisition, il y a certaines choses qu'on va garder, mais par exemple, plusieurs exemplaires d'un film, si c'est un film québécois. Et même chose pour l'animation. Donc, nos deux priorités d'acquisition, c'est le cinéma québécois et le cinéma en animation. Que ce soit une animation, c'est que ce soit international ou québécois. C'est ça. Donc, mais chaque fois qu'on reçoit un don, il y a un tri qui se fait parce qu'on a toujours des documents qui ne tombent pas dans le mandat d'acquisition.
D'un point de vue grand public, mais, il y a des limites, n'est-ce pas? Donc, on ne se mettait qu'à quelques des films de famille.
Oui, c'est ça, exactement. Ouais.
C'est une personne qui
ouais,
est dans un contexte professionnel.
C'est
et
ça.
Et puis, par rapport au dépôt légal, quelle est la façon d'être le plus utile pour augmenter la collection? Est-ce que, comment ça fonctionne le dépôt légal par rapport à cette...
Il faut comprendre que le dépôt légal, ce n'est pas la collection de la Cinémathèque, c'est la collection de Bibliothèques et Archives nationales du Québec. C'est une entente qui a été faite avec la Cinémathèque et BANQ en 2006. Donc, c'est la collection de BANQ qui... mais la Cinémathèque s'occupe de l'acquisition, documentation et la conservation de ces éléments-là. Mais on n'a aucun droit sur ces films-là, on ne peut pas les projeter, on ne peut pas les diffuser, on ne peut pas les prêter, on n'a aucun droit sur ces films. C'est vraiment une collection de conservation. Donc, ça, c'est des productions audiovisuelles qui ont bénéficié du financement public au Québec, que ce soit le SODEC, crédit d'impôt, donc n'importe quel financement de l'État. Les producteurs doivent déposer une copie aux collections 6 mois, je pense que c'est 6 mois après la diffusion publique. Selon la loi.
Donc, ces copies sont physiquement à la Cinémathèque, dans les entrepôts des...
Oui, c'est ça. Donc, et chaque copie, cette collection-là, puisque c'est vraiment chaque copie est reçue, cataloguée, il y a une vérification technique très, très rigoureuse qui se fait. Parce que si on reçoit une copie, puis il n'est pas conforme au nombre technique, mais on est obligé de la refuser. Parce que la majorité des formats, maintenant, on reçoit en format numérique. Okay. Pour le dépôt légal. Puis aussi, juste ça, pour préciser, ça comprend, quand je parle des productions audiovisuelles, mais c'est télévision et cinématographique.
Oui, donc il y a tout le cinéma, toute la télévision aussi.
C'est ça. Je ne sais pas si tu veux ajouter des choses. Parce que c'est
oui, puis la télévision, en fait, il faut savoir aussi qu'on conserve, par exemple, la fiction, on va tout conserver, mais si il y a des talk shows, on va conserver comme une fraction, donc un échantillonnage d'une saison. Donc, il y a une grille qui est établie au début du dépôt légal qui détermine.
C'est un peu comme Radio-Canada qui conserve certaines émissions ou un échantillon, c'est un peu le même principe.
Et cela dit aussi, vu qu'il y a vraiment des critères très clairs là, pour le dépôt légal, s'il y a un film qui n'a pas bénéficié du financement public, mais ils ne peuvent pas déposer le dépôt légal. Mais souvent, on va l'encourager à déposer, si c'est une production entièrement indépendante, on va l'encourager à déposer dans nos collections. Ou même, on peut avoir aussi des gens qui déposent une copie au dépôt légal, mais on a aussi une copie dans notre collection régulière, parce que ça nous permet aussi, selon l'entente, de pouvoir le diffuser.
Donc, les productions indépendantes sont présentes à la Cinémathèque, mais sans passer par le dépôt légal. Donc,
ouais.
En fait, ce qui est intéressant aussi avec la collection du dépôt légal, c'est qu'on est vraiment au diapason avec les nouvelles méthodes de production dans le milieu scénographique, étant donné que les studios de post-production, les producteurs évoluent avec la technologie. Donc, nous, on est toujours en tentative d'adapter nos normes aux meilleures pratiques qu'on pourrait avoir pour conserver donc, les œuvres.
J'ai des collections complètes qui ont été versées. Là, je me tourne vers Nicolas. Donc, on peut penser à la Fondation Nenel Langlois qui était sur Saint-Laurent jusqu'à il y a une dizaine d'années. Et, donc, les collections se retrouvent en fait, à la Cinémathèque. Peut-être que tu peux mentionner comment c'est arrivé. Puis, qu'est-ce qu'elle a comme enjeu parce que c'est des...
Spécifiquement sur la collection Langlois. La collection Langlois est très intéressante parce que, donc, pour ceux qui ne connaissent pas la Fondation Nenel Langlois, c'est une fondation qui a été mise sur place par donc le mécène Daniel Langlois qui s'intéressait beaucoup créateur du logiciel Softimage et puis il s'est intéressé beaucoup aux nouveaux médias, ce qu'on appelait à l'époque les nouveaux médias et les arts numériques. Ce qui fait en sorte qu'à travers les acquisitions de la Fondation, la Fondation a accumulé un paquet de d'œuvres qui étaient vraiment dépendantes de technologies déployées au moment où est-ce que ces œuvres étaient conçues.
C'est
des capsules temporelles.
C'est des capsules temporelles, oui.
Ce qui fait en sorte que... Par exemple, on a une collection assez garnie de CD-ROM interactifs qui nous sont arrivés à travers la Fondation. Et ces CD-ROM-là sont dépendants de machines et de logiciels qui étaient disponible à l'époque, mais maintenant un peu plus difficile d'accès. Donc, il y a un travail au niveau de la préservation de ces CD-ROM-là. Donc, il y a un travail de recherche pour essayer d'émuler ou de retrouver des ordinateurs de l'époque, donc pour être capable de, d'avoir l'expérience que les gens qui veulent revivre bon, l'œuvre interactive sur CD-ROM pour qu'elle puisse le faire.
Donc, la cinémathèque a hérité de ces œuvres, tu me disais, d'après, il y a toutes sortes de questions que ça soulève, d'enjeux, comment même les consulter, comment même réussir à les numériser à nouveau ou mettre à jour en guillemets.
Parce que l'obsolescence technologique,
c'est rapide,
on s'en rend pas compte dans nos quotidiens, mais je pense qu'on utilisait encore des iPods il y a à peu près 12 ans. Mm-hmm. Puis maintenant, essayer de brancher un iPod sur un ordinateur, ça demande une réflexion puis une gymnastique de câble là, pour essayer de retrouver ton câble que tu avais. Est-ce que tu as besoin d'un adaptateur? Est-ce que le système va le reconnaître? Donc, ça va vite.
Oui, c'est des durées de vie assez raccourcies. Puis bon, c'est intéressant comme travail qui est complètement différent du cinéma. Question plus générale, peut-être au niveau peut-être plus social, le cinéma va bien, il y a comme une certaine, il y a un intérêt, comme la cinéphilie est très présente, autant aux États-Unis qu'ailleurs dans le monde. Puis, comment est-ce que la cinémathèque bénéficie de ça? Donc, par rapport à d'autres musées, par exemple, qui luttent pour amener des gens plus jeunes ou faire baisser le moyen d'âge. Donc, on voit plein de musées qui font beaucoup d'efforts pour attirer les gens, mais on dirait que ça, la cinémathèque arrive à attirer un public assez jeune dans le festival, donc des gens dans la vingtaine, trentaine. Donc, pour l'institution, c'est extrêmement positif. Puis, comment tu vois ça? Donc, cette mode-là de cinéphilie, donc, qu'est-ce qui ramène les gens à la cinémathèque?
Moi, je pense qu'il y a un média social qui s'appelle Letterboxd, qui est vraiment construit autour de la découverte, l'écoute et l'échange autour de films. On est dans des tendances, mais je pense que ça a encouragé une plus jeune génération à découvrir des films. Parce que l'usage de Letterboxd rend ça extrêmement facile de voir « Ah, tel ami écouter tel truc ». Ça me donne le goût de l'écouter. On peut le sauvegarder dans une liste d'écoute et voir où il est projeté, s'il est projeté en ligne ou en salle. Et je crois que à travers la nature même du mandat de la cinémathèque, qui est de diffuser et de faire découvrir des films, ça rejoint un peu cet esprit-là de d'écoute et de partage autour du cinéma.
Oui, tout à fait. Mais nous, on voit aussi dans les statistiques de fréquentation que le public continue à se rajeunir. On a de plus en plus de membres plus jeunes. Je pense aussi comme c'est une des rares institutions à Montréal qui projette la pellicule. Donc, c'est une des rares fois. OK, tu vas aller voir un Bergman en 35 mm sur grand écran. C'est une expérience qui est vraiment unique. Donc, je pense que c'est quelque chose qui a eu vraiment une sorte de réappréciation, je pense, pour la pellicule. Parce que Des films commerciaux, mais on peut les voir en salle, on peut les voir aussi dans notre cinéma maison, mais une expérience comme ça, vraiment du cinéma, de l'analogique, c'est une des rares places qu'on peut vraiment avoir cette expérience-là, puis on voit que c'est quelque chose qui rejoint vraiment beaucoup, beaucoup les jeunes en ce moment. Puis aussi, je veux dire, aussi même dans nos fréquentations, comme à la médiathèque par exemple, les chercheurs, on a beaucoup, beaucoup d'intérêt pour la recherche sur le cinéma aussi, là, donc... C'est ça, mais j'aimerais juste aussi, et peut-être ajouter à ça, que c'est comme, bien quand on a vraiment des, au niveau de la fréquentation et l'intérêt public, ça va très très bien, ce n'est pas un secret que le financement des institutions culturelles, des musées comme les nôtres, et la situation est très très difficile en ce moment. En fait, je pense que c'est ça. Je ne veux pas faire l'illusion que parce qu'on a des spectateurs, que ça veut dire nécessairement qu'on a suffisamment de financement public de l'État, qu'il y a vraiment un écart entre en fait la valorisation qu'on peut faire et le soutien qui nous est offert.
Est-ce qu'il y avait d'autres choses, ou peut-être des secrets de la cinémathèque, des choses, des fun facts en terminant?
Fun fact. C'est sûr qu'on trouve toujours des choses intéressantes dans les numérisations. Je ne serais pas très, très spécifique, mais il faut savoir que dans une façon de faire à la télé à une époque, c'était de ne pas couper les flux de son durant les pauses. Donc, quand on a une cassette vidéo qui est numérisée et qu'on tombe dans une pause publicitaire, l'image coupe, mais le son continue. Donc, des fois, on entend les conversations de la régie, des choses qui se passent sur le plateau. Et ça peut être cocasse à certains moments. Là,
ouais. Ouais, toutes les bloopers.
Ouais, les bloopers, là, ça c'est sûr.
Voilà, je pense que c'est tout. Ouais,
ouais, bah, merci beaucoup. Donc, les Sondebert, Martel. Merci beaucoup d'avoir été au podcast.
Voilà, c'était Jessica Hébert et Nicolas Martel qui nous parlaient de la Cinémathèque. Vous trouverez plus d'informations, ainsi que toute la programmation de films et d'événements, ainsi que les heures d'ouverture de la médiathèque sur cinémathèque.qc.ca. De notre côté, si vous avez des idées ou des suggestions pour la balado, n'hésitez pas à nous contacter sur archivologiste.org. C'était Sylvain Aubé, l'archivologiste.